chirurgicale à Boulogne-sur-Mer, qui se longtemps appelait la clinique Ouzel. Maintenant, je crois que c'est un EHPAD. Mais c'est toujours à Boulogne-sur-Mer. Alors, je ne sais pas comment vous voulez.
Vous faites comme vous voulez, libre à vous.
Ce que j'espère, c'est qu'on puisse échanger, dialoguer, réfléchir ensemble autour de cette thématique de la parentalité. Je vais vous expliquer un peu d'abord qui je suis et puis ensuite comment je suis arrivé à m'y intéresser. Je suis en retraite. Ça doit se voir. Hein. Mais j'ai été pédopsychiatre. Le titre exact d'ailleurs, c'est psychiatre d'enfants et d'adolescents. Mais on dit pédopsychiatre, ça va plus vite. J'ai fait toute ma formation à Paris, hein, je suis parisien d'origine, donc dans les hôpitaux de la science publique parisienne. Et puis je suis parti en province, d'abord à Brest, pour prendre un poste au CHU de Brest et à l'Université de Bretagne occidentale, comme on dit PUPH, c'est-à-dire praticien hospitalier, professeur des universités, en pédopsychiatrie. Ce qui m'intéressait à l'époque, ça remonte, c'est de l'histoire ancienne, hein, ça remonte à 74, fin 74. Ce qui m'intéressait, c'est de mettre en place, de créer ce qu'on appelait les intersecteurs de pédopsychiatrie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette idée de secteur de psychiatrie. Ça a été la grande nouveauté dans l'organisation de la psychiatrie des années 60-70. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, parce que ça, il faudrait remonter jusqu'à au moins la Seconde Guerre mondiale, si ce n'est avant, pour comprendre d'où ça vient. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, et beaucoup à la lumière d'ailleurs des drames de la Seconde Guerre mondiale et des déportations, des camps de déportés, etc., que cet enfermement des malades mentaux dans des immenses asiles psychiatriques, c'était inhumain, c'était pas thérapeutique, c'était exclure. La folie, on peut dire, et les fous, de la société. Donc l'idée très généreuse qui est née tout de suite après-guerre a été qu'il fallait au contraire ouvrir les asiles, qu'on s'est mis à appeler d'ailleurs hôpitaux psychiatriques, et non plus asiles, et intégrer davantage les gens en souffrance psychique. Vous savez qu'il y en a beaucoup, hein. On estime qu'un Français sur quatre, dans sa vie, a un problème du côté psychique. Actuellement, on estime à 13 millions le nombre de patients suivis en psychiatrie. C'est pas rien. Donc c'est pas tellement possible, hein, d'exclure le trouble mental, la souffrance mentale. Elle est inhérente à notre espèce, on peut dire, à notre condition d'être humain. D'où l'idée de créer ce qu'on appelait des secteurs de psychiatrie en multipliant les centres de soins dans la ville ou dans la campagne, quand c'était des secteurs plus ruraux. Des lieux de consultation, des hôpitaux de jour, etc. En gardant des lits d'hospitalisation, mais moins nombreux, et surtout en ne gardant pas les patients à vie, comme c'était souvent le cas, enfermés dans l'asile. Alors, on a eu l'idée à l'époque, qui s'est révélée fausse. Parfois, les bonnes intentions donnent des idées inadéquates, mais ce n'est pas grave, on peut les corriger, qu'il fallait un secteur pour les enfants et les adolescents. À l'époque, c'était jusqu'à 16 ans, on l'a prolongé maintenant jusqu'à 18 ans. Pour trois secteurs de psychiatrie d'adultes, d'où ce mot d'intersecteur. L'idée fausse, c'était que si les enfants avaient des problèmes psychiques, forcément les parents en avaient aussi. Donc pendant que les psychiatres d'adultes s'occuperaient des patients adultes, les parents, les psychiatres d'enfants s'occuperaient des enfants. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et on ne peut pas du tout faire ce lien systématique, causal, si vous voulez, entre telle difficulté des adultes, des parents, et les problèmes des enfants. Il y en a, mais ils sont d'une telle complexité et d'une telle incertitude qu'on ne peut pas faire quelque chose de systématique comme on a cru à l'époque, dans les années 40, 50, 60, quand on réfléchissait à cette nouvelle organisation. Alors, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est la mise en place des secteurs en question, des intersecteurs, qui n'existaient pas encore dans le Finistère, qui n'existaient pas à Brest, et qu'il fallait créer. Donc j'ai dû mettre en place deux intersecteurs de psychiatrie d'enfants et d'adolescents à Brest, et puis prendre le poste de professeur de ma discipline à la faculté de médecine, dépendant donc de cette université de Bretagne occidentale. Ça a été une expérience extrêmement intéressante, extrêmement riche. J'ai gardé une certaine nostalgie de cette période bretonne de mon existence. Puis j'ai muté, comme on dit, rassurez-vous, ce n'est pas une mutation trop grave, de Brest à Caen au début des années 90. J'ai passé les dernières années de ma carrière au CHU de Caen et à l'université de Caen. Pourquoi j'ai muté ? Parce que je suis aussi psychanalyste, membre d'une des sociétés de psychanalyse reconnue par l'Association internationale de psychanalyse. Je précise ça parce que c'est très 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 compliqué de s'y repérer dans les différents groupes de psychanalystes. Il y en a beaucoup qui sont pas reconnus par la société internationale, créée par Freud lui-même, alors que celle à laquelle j'appartiens l'est, c'est l'Association psychanalytique de France. Et dans ma pratique de psychanalyse, où je me suis beaucoup investi, je me trouvais un peu isolé à Brest. Et c'est pas facile du tout de remplir cette fonction de psychanalyste quand on n'a pas un environnement suffisant de collègues, de groupes, de travaux, de réflexions. Groupage, je dirais. Donc j'ai décidé de partir de Brest pour aller à Caen en 91 et j'ai terminé là ma carrière en mettant en place avec les collègues donc, qui m'avaient sollicité pour venir les rejoindre des moyens de formation de psychothérapeute d'enfants et d'adolescents. Alors, j'en arrive aux années 90. C'est dans les années 90 que j'ai été sollicité par le ministère des Affaires sociales. Je suis plus très très sûr d'ailleurs du nom exact du ministère parce que ça change d'un gouvernement à l'autre. En fait, le ministère des Affaires sociales de l'époque animer un groupe sur la thématique de la parentalité, c'est le milieu des années 90, et ça venait d'une histoire déjà un petit peu ancienne, ce qu'on a appelé l'opération pouponnière, vous connaissez je crois que c'est Simone Veil. Ça serait bien qu'elle revienne maintenant, parce que je crois que tout est à refaire.
Ouais.
Simone Veil, qui était beaucoup inquiétée quand elle était ministre de la Santé, de l'état mauvais des pouponnières, des crèches, de tous les lieux où on accueillait des enfants, de très jeunes enfants, qui n'avaient pas de conditions suffisamment bonnes. Dans certains cas, oui, mais pas suffisamment dans toutes les crèches en question, pour leur développement physique et psychique. Donc cette opération pouponnière qui a réuni des gens éminents, comme Geneviève Appel, Myriam David, et d'autres grands psychologues de l'époque, a siégé, je crois que ça a disparu maintenant, je crois plus qu'il y ait de...
L'opération pouponnière.
Ça continue.
Non, il y a eu une grande interruption parce que j'ai fait partie de l'opération pouponnière.
Vous avez partagé, oui.
Et donc, ça a eu un long moment où il n'y avait plus vraiment de statut officiel. Là, c'est en train de redémarrer, mais
ça
pas
redémarre.
Forcément avec le même intitulé.
Ah, d'accord.
Mais un petit peu. Et Frédéric, tu es allé récemment aussi à une réunion de la projection
Sylvie en a parlé, puisque.
J'en ai parlé.
Il y avait déjà effectivement Anne de Vresse, vous avez sollicité à quelques-uns autour de l'accueil des bébés en pouponnière, parce que je lui en avais parlé, du coup elle avait. Mais c'était resté un peu en vrac. D'ailleurs, je vous avais sollicité à ce moment-là pour avoir votre avis.
Oui.
C'était au Conseil national de la protection de l'enfance. Et puis deux ans après, Madame Santiago, ayant visité une pouponnière, a été allée effarée de l'état. Et donc, ça a relancé effectivement l'inquiétude sur l'accueil des enfants 0-3 ans, un peu comme ce que tu avais dit, on avait dit aussi au colloque. Hein,
et donc, on a fait partie du groupe de travail, enfin de réflexion, mais qui s'est arrêté puisque le gouvernement
a été dissolu.
Alors, bon, je crois que l'opération pouponnière dont on te parlait a eu un rôle très important pour faire progresser la prise en charge des enfants dans toutes ces institutions et améliorer, à la lumière des connaissances qui étaient déjà présentes, mais qui ont progressé, des besoins des jeunes enfants, des besoins des bébés, dès la naissance, voire avant, pour se développer dans les meilleures conditions. Et les gens de l'opération pouponnière, peut-être vous vous rappelez de cela, se sont posé des questions parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'il y avait des séparations, des placements d'enfants, les réponses étaient très très différentes d'un endroit à l'autre, d'un département à l'autre, pour le maintien ou le non-maintien des relations entre l'enfant et ses parents biologiques. Dans certains cas, c'était une coupure très nette, où on avait un petit peu la crainte de l'influence de parents dysfonctionnels sur leur enfant. Dans d'autres cas, on promouvait au contraire les liens avec des moyens d'accompagnement, bien sûr, mais même quand il n'y avait pas une demande très nette de la part des parents, on voulait absolument qu'il y ait un maintien du lien avec les parents biologiques. Et c'était aussi très variable, les décisions de placement d'un département à l'autre. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé, mais enfin, en tout cas, à l'époque.
Ça
n'a pas beaucoup changé. Alors, la question que s'était posée, notamment par rapport au maintien ou non-maintien du lien en cas de placement, que s'était posé le groupe de l'opération pouponnière, portait sur qu'en est-il des parents dont on retire l'enfant ? Est-ce que quelle souffrance ça peut créer, quel dysfonctionnement ça peut aggraver, comment réagissent-ils à cette situation très très, j'ai envie de dire très violente, un quelles que soient les circonstances. Bon, s'y posait la question, sous cet angle-là, de la parentalité. Qu'est-ce que c'est la parentalité? Alors, quelquefois, on a cru que j'avais inventé le mot. Non, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas inventé le mot. Mais un petit, quand même, un petit couplet sur son origine. C'est un néologisme. Jusqu'aux années 60, on ne parlait pas de parentalité, on parlait de parenté, mais pas de parentalité. Le mot est apparu sous la plume d'un psychiatre célèbre, Paul-Claude Racabier, qui était en même temps psychanalyste, et qui s'est beaucoup intéressé à une pathologie grave de la grossesse et de l'accouchement qu'on appelle les psychoses puerpérales. C'est des femmes, c'est heureusement rare, c'est un cas sur 1000 ou 2000. C'est des femmes qui ont des états délirants, des états confusionnels dans les jours ou quelquefois les semaines suivant un accouchement. Avec des risques évidemment pour le bébé, d'autant plus grave qu'il y a parfois des fantasmes d'infanticide, voire des pulsions d'infanticide. Or, Paul Colleracamier, en tant que psychiatre d'adulte, hein, il n'était pas du tout psychiatre d'enfant, en tant que psychiatre d'adulte, s'est beaucoup intéressé à ces psychoses puerpérales. Et il s'est inspiré des travaux d'une psychanalyste américaine qui s'appelait Bybring, B-I-B-R-I-N-G, qui, dans les années 50, avait publié sur les psychoses puerpérales et montré l'importance de ne pas séparer complètement le bébé de sa mère. Évidemment, avec toutes les précautions nécessaires pour que le bébé ne soit pas en danger, c'est-à-dire la présence d'une puéricultrice ou de quelqu'un, d'un psychologue, enfin de quelqu'un qui accompagne mère et bébé et qui ne les laisse pas seuls pendant un temps plus ou moins long. Et en traduisant Bybring, Racamier a eu le besoin d'un néologisme. Ce néologisme, c'était maternalité. Alors, je souligne ça parce que quelle est la différence entre maternité et maternalité ? Maternité, ça désigne un état. La maternité d'une femme, ça signifie que elle a mis au monde un enfant. Maternalité, ça renvoie plutôt à un processus, à une dynamique, à une expérience. On peut avoir une maternité sans que la maternalité suive, si vous voulez. Je crois que ça, les Anglais, ils avaient déjà un mot pour ça. Maternalité existe, mais ils avaient aussi le mot motherhood. Tous ces mots en hood désignent plus des aspects subjectifs, expérientiels. Childhood, c'est l'enfance, mais l'enfance au sens du vécu de l'enfance. Donc pour traduire ça, il a inventé ce mot de maternalité. Et puis en note, dans le texte de l'article qu'il a publié, il ajoutait, on pourrait aussi parler de paternalité, voire de parentalité. On est en 1961, si mes souvenirs sont bons. C'est là que le mot apparaît pour la première fois. Bon, on ne s'en est pas saisi très vite. Hein. Il a fallu attendre les années 80 pour qu'on commence à utiliser cette expression de parentalité. Et toujours dans l'idée de souligner l'expérience d'être parent. Pas simplement le fait, pas simplement l'état, mais ce que ça fait subjectivement, consciemment et inconsciemment, je dirais. Alors, on s'est penché sur la question qui nous était posée, pas du tout dans l'idée qu'on allait apporter une réponse. Sûrement, peut-être, mais je ne crois pas qu'on ait une réponse. Je ne crois pas que quelqu'un sache qu'est-ce que c'est que d'être parent et bon parent. Et je crois qu'il faut se garder de la tentation que l'on a, tout le monde l'a, d'avoir des solutions toutes faites. Parce que les solutions toutes faites, elles ont l'inconvénient dans le domaine de la subjectivité et de l'intersubjectivité de faire peser, on dit maintenant, une charge mentale. Utiliser cette expression. Un poids qui peut être complètement inhibant pour les gens qui sont dans cette situation de devenir parents. L'idée que nous avons eue, c'est plutôt de, à travers des observations, on a examiné une dizaine d'observations, on passait des week-ends entiers sur une observation, ça a duré pendant plusieurs années, et notre groupe, il y avait une dizaine de personnes dans le groupe, d'ailleurs elles sont bien sûr présentes dans le livre, dont je n'ai fait que rédiger les conclusions, si vous voulez, de notre groupe. Il y avait un juge des enfants, il y avait un pédiatre, il y avait des éducateurs spécialisés, il y avait des psychologues, il y avait... Bon, c'était des gens de terrain qui avaient une expérience de s'occuper de parents en difficulté et qui nous apportaient des observations déjà conclues. Hein. On n'avait pas du tout pour tâche de donner des indications sur comment il fallait conduire les choses. C'était bouclé. Donc des observations qui dataient souvent quelques années, mais extrêmement complexes et qui avaient posé des problèmes à ceux qui devaient s'en charger. Et puis on discutait sur la conduite des choses, sur leur... résultat éventuel. Ça nous a amené, encore une fois, pas du tout à donner des recettes, mais à essayer d'analyser les différentes composantes de la parentalité. Dans l'espoir que ça aide les gens de terrain, justement, à trouver des repères, des critères pour, dans les cas qu'ils avaient à suivre, pour voir là où étaient les difficultés et là où les gens avaient besoin d'une aide, d'un accompagnement, voire d'une thérapeutique. Alors cette analyse spectrale, je dirais, c'est un petit peu prétentieux, mais ça fait image, de la parentalité, ça nous a conduit à distinguer ce qu'on appelle la pratique de la parentalité. Comment est-ce qu'on s'occupe du bébé, de l'enfant? Est-ce que l'hygiène est correcte? Est-ce que le logement est suffisant? Est-ce que l'enfant a sa place un peu réservée, etc. Je ne vais pas m'étendre davantage. C'est un peu le domaine classique, si vous voulez, hein. C'est là-dessus qu'on évaluait les situations. Sur des choses très, très pratiques, très matérielles, qui ont toute leur importance. Et il ne s'agit pas du tout de les négliger. Et il s'agit surtout de rappeler et de rappeler et de jamais se lasser de rappeler les besoins qu'ont les enfants dans ce domaine. Parce qu'on le voit encore ces jours-ci, c'est toujours un peu la variable d'ajustement. Hein. Quand on a besoin de faire des économies, je crois qu'on est tous d'accord pour penser que on y est acculé. Où est-ce qu'on va prendre des sous? J'irai dans le service à la personne. Ça ne se voit pas trop, et puis on peut aménager les choses un peu autrement, et puis voilà. Eh bien, il y a des limites. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des économies aussi dans un domaine, mais il y a des limites. En dessous d'un certain seuil, ça ne va plus. Je ne prends qu'un exemple. Le nombre d'adultes pour s'occuper d'un groupe d'enfants, le ratio adulte-enfant ne peut pas descendre en dessous d'un certain seuil. Sinon, qu'est-ce qu'on voit ? On le voit actuellement, des maltraitances. J'ai encore vu tout récemment un autre filet dans le monde de maltraitance dans une crèche. Et c'est presque toujours le manque de personnel, l'insuffisance du nombre de personnel, quelquefois aussi l'insuffisance de formation de ce personnel qui est en question. Alors, premier point, donc, la pratique. Deuxième point, ce qu'on a appelé l'expérience. Alors, on avait un juge des enfants tout à fait remarquable, M. Hamon, avec nous. C'est peut-être un peu sous son influence qu'on a... Je dis l'expérience avant le terme qu'on a utilisé. Il m'échappe.
L'exercice.
Voilà, merci bien. C'est sur son influence qu'on a utilisé ce terme d'exercice qui a souvent été peut-être mal interprété dans le sens d'une façon de faire. C'est pas ça qu'on voulait dire. On voulait parler des droits et des devoirs. De ce que en droit on appelle la désignation du parent. On est reconnu comme parent, on est désigné comme parent par, officiellement, par la justice, par l'État. On est déclaré être le parent de tel ou tel enfant. C'est un point qui est probablement plus important qu'on pourrait le penser au premier abord, parce que, à juste titre d'ailleurs, on a valorisé beaucoup la personne qui est auprès de l'enfant pour s'en occuper. Mais ce n'est pas forcément la personne qui est désignée comme parent, c'est-à-dire qui a les droits et les devoirs. Je prends un exemple. Quand il y a des séparations de couple, légalement, les deux parents doivent avoir des informations venant de l'école, par exemple. Ils doivent donner leur accord pour une décision, est-ce que l'enfant va faire tel ou tel sport, ou telle sortie, ou voyage scolaire, et tout. Est-ce que c'est tout à fait respecté? Non, je vois que...
Mais pourquoi il y a des séparations?
Oui.
Il y a des informations, mais toi... On est encore des fois dans un schéma institutionnel où on va dire que un seul parent et pas l'autre.
Oui. Ben, on n'est pas dans le strict respect de la loi. Alors, ça peut passer comme ça dans bien des cas. Quelquefois, ça peut poser un problème. On a une des personnes du groupe qui était éducatrice spécialisée et qui, après donc, notre groupe, il nous avait rapporté un cas, c'était pas un cas étudié par le groupe, mais après coup, d'une jeune fille qui avait des conduites délictueuses de plus en plus graves. Et cette jeune fille était élevée par sa grand-mère, je crois sa grand-mère maternelle. Et on traitait avec la grand-mère pour essayer de trouver des solutions, des issues à ses comportements de plus en plus délinquant de la jeune fille. On n'arrivait pas, on n'arrivait à rien. jusqu'au jour où quelqu'un, et je crois que c'est notre éducatrice spécialisée qui a eu cette intuition, parce que justement elle avait participé à notre travail, de vérifier qui avait qui était désigné comme parent, qui avait l'autorité parentale. C'était pas la grand-mère, c'était la mère. Et à ce moment-là, on a rencontré la mère, on a discuté avec elle, on a engagé des choses avec elle, et les choses se sont amendées. C'était pas magique, mais je pense que dans l'esprit de cette jeune fille, il y avait quelque chose qui dysfonctionnait tant que on ne reconnaissait pas la personne qui était désignée comme responsable d'elle, détenant l'autorité parentale. Donc c'est certainement quelque chose d'important, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ça me renvoie dans mon essai de réflexion à l'idée de cadre. Ce que l'on fait, quelles que soient les bonnes intentions que l'on ait et la compétence qu'on a acquise, ne vaut que dans un cadre donné et adéquat. Si on n'est pas dans le bon cadre, ça ne marche pas. Et la désignation du parent, ça définit le cadre. Ça définit le cadre légal dans lequel peut s'exercer l'autorité parentale. Elle peut être déléguée. Elle peut être déléguée à une grand-mère ou à une institution, ou que sais-je. Mais encore faut-il qu'elle soit reconnue. Et puis alors, la dernière composante, la troisième, évidemment celle qui nous a retenu le plus, c'est l'expérience. L'expérience, je disais tout à l'heure, consciente et inconsciente, parce que c'est comme ça. Alors là, je fais appel à ma formation de psychanalyste et à mon expérience de psychanalyste. On est ainsi fait que nos actes conscients sont inévitablement sous-tendus par des mécanismes, des tendances qui nous échappent, qui sont inconscientes. Vous savez, l'exemple courant, c'est jamais je ne ferai comme mon père, ou jamais je ne ferai comme ma mère. Quand j'aurai des enfants, je ferai tout le contraire. Et puis patatras, on se retrouve, père ou mère, confronté à tel ou tel problème, et on fait exactement, ou pas tout à fait exactement, mais enfin, un peu la même chose que ce qu'on ne voulait pas faire, justement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mécanismes qu'on appelle les mécanismes d'identification qui font que on a intériorisé cette façon d'être, cette façon de faire, cette façon de réagir devant tel ou tel problème. Et c'est bien souvent ça qui pose le plus de difficultés dans la parentalité. Il y a des problèmes matériels, Dieu sait s'il y en a, qu'il faut résoudre du côté de la pratique pour que les gens aient les moyens d'élever leurs enfants dans des conditions matérielles satisfaisantes. Il y a, je ne reviens pas, la définition de l'autorité parentale, l'attribution de l'autorité parentale, la désignation du parent, je ne reviens pas non plus. Mais avec tout ça, on fait, je dirais, on fait comme on peut. Et comme on peut, ça vient de ce qu'on a reçu. Et puis c'est jamais parfait. Et puis quelquefois, on a vécu. Il ne s'agit absolument pas de juger, de jeter la pierre ou de se projeter sur telle ou telle personne. Mais on a vécu des situations traumatiques, difficiles, angoissantes, inadéquates, qu'on tend à revivre lorsqu'on est dans la situation d'être parent. Et je pense que c'est beaucoup dans ce domaine de l'expérience de la parentalité qu'on a à répondre aux demandes, aux souffrances, aux difficultés des parents. Encore une fois, pas du tout pour leur apporter des recettes toutes faites, parce que ça ne marche pas. Ça, je vous garantis que en cuisine, en plein de choses, c'est parfait, mais pour la parentalité, ça ne marche pas. Mais en les accompagnant, moi j'aime bien cette expression d'accompagnement à la parentalité, en les soutenant, le cas échéant, et puis parfois en les traitant, en leur proposant d'entrer dans un processus de questionnement et de progression pour résoudre leurs propres difficultés. Autrement dit, c'est le domaine principal qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité, de prudence, d'empathie et de compréhension de la difficulté d'être parent. Vous savez, c'est très impressionnant, parce qu'on peut aussi parler de pathologie de la parentalité, c'est très impressionnant de voir les chiffres de difficultés psychiques qui sont liées à l'expérience de la parentalité. J'ai parlé des psychoses puérpérales tout à l'heure, j'y reviens pas, heureusement très rare. Mais ce qu'on appelle les dépressions postnatales ou les dépressions du postpartum, c'est beaucoup plus fréquent, c'est près de 15% des mères. Chez les pères, il y a aussi des difficultés. On s'y est intéressé depuis moins longtemps et peut-être moins à fond, mais elles sont souvent très impressionnantes. D'abord, pendant la grossesse et du côté des violences conjugales. Alors moi, ça fait très 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 longtemps, j'avais écrit un petit texte que j'avais appelé « Le syndrome de Connemore ». Je vous explique qui était Connemore, c'était un prince breton de Bretagne armoricaine qui, vers le 5e siècle, par là, 5e, 6e siècle, épousait une noble dame, et quand cette dame venait lui annoncer « Monseigneur, j'attends un bébé de vous », il l'étranglait. Il en épousait une autre. Et puis il y a toute une série comme ça. C'est rapporté, vous connaissez cette légende, c'est rapporté dans un livre très intéressant qu'on appelle le Brésèse. Oui, un recueil de légendes et de récits bretons. On pense que c'est une des figures emblématiques de Barbe Bleue, dans la légende de Barbe Bleue. Alors, ça ne va pas toujours jusque-là, encore que, ça peut. Mais il y a des conduites, parfois violentes, qui contrastent complètement avec les conduites du père avant. Je me rappelle par exemple le cas de père qui attaque le ventre gravide de leur femme, comme s'il ne pouvait pas se situer en tant que tiers paternel, mais en tant que bébé rival de bébé que porte la mère, qui devient pour le momentanément dans un mouvement, un raptus, ça, de colère, le Barzazbreiz, c'est ça, hein, le Barzazbreiz, le livre breton, c'est le bar de breton, ça veut dire Barzazbreiz, qui devient donc un bébé rival persécuté par ce bébé qui arrive. Ce que j'avais observé aussi, c'était des fugues. Des pères qui, quand ils apprennent, quand ils perçoivent que leur femme attend un bébé, s'en vont. Parfois ont des aventures extra-conjugales, qu'ils n'avaient pas avant. Hein. C'est toujours en rupture avec les comportements antérieurs. Ce qui souligne tout de même le lien avec la situation de paternalité. Et puis il y a aussi des dépressions, des alcoolisations notamment. La dépression masculine s'exprime souvent autrement, hein, plus dans des addictions, des conduites inadéquates. Bref, c'est pas simple de devenir parent. C'est une aventure merveilleuse, je ne vous dirais pas le contraire. Mais c'est pas simple. C'est pas simple individuellement pour chacun des parents. C'est pas simple pour le couple. Parce que ça change complètement l'équilibre. Le système duel d'un homme et d'une femme, quelquefois maintenant de deux hommes, deux femmes, qui s'aiment et qui veulent vivre, partager leur vie, et puis d'un troisième, même s'il est désiré, même s'il y a désir d'enfant. Parce que ça change complètement l'équilibre antérieur. Et il faut, pour que ça marche suffisamment bien, c'est jamais parfait, hein. Surtout, il ne faut pas chercher la perfection, parce qu'elle est inatteignable. Il faut que chacun ait un équilibre intérieur suffisant pour tolérer la présence d'un troisième. Et puis peut-être un quatrième, un cinquième, etc. C'est pas très étonnant que quand on regarde l'histoire, il y a eu beaucoup de... lois, d'autorité, d'obligations qui garantissent, je dirais, quand même, d'une certaine façon, la possibilité de fonder une famille et de la maintenir dans la durée. C'est beaucoup plus souple maintenant. On voit d'ailleurs que les familles sont beaucoup moins stables. Est-ce que ce n'est pas en partie dû justement au fait que c'est une aventure à risque et une aventure toujours exigeante, encore une fois pleine de joie et d'espoir, mais aussi d'exigence et parfois de souffrance. Alors, c'est dans ce domaine de l'expérience de la parentalité que on a évidemment accentué notre travail et le rapport qui en est découlé. Et j'ajouterais peut-être maintenant, à l'époque, je n'ai pas trop eu cette idée dans notre groupe, on n'avait pas tellement parlé, peut-être un chapitre sur ce qu'on appelle la régulation des émotions. Je suis peut-être trop long.
Non, c'est pas si long.
Vous m'arrêtez. Hein. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, on s'aperçoit que les bébés, ils ont des états émotionnels très forts. Mais ils ne sont pas armés pour les gérer. tout seul. Je prends toujours la comparaison avec les petits poulains. Il paraît qu'un poulain qui ne marche pas dans le quart d'heure qui suit sa naissance, il est foutu. Il ne va pas vivre. Un poulain se redresse sur ses pattes dans les minutes qui suivent sa naissance, et puis, alors il a besoin de téter sa mère, donc il va la suivre, mais il est déjà sur ses pattes, à se débrouiller tout seul. Les bébés, c'est pas le cas. C'est pas le cas physiquement, c'est pas non plus le cas psychiquement. Ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour gérer leurs états émotionnels, leurs états subjectifs. Et donc, ils dépendent d'un partenaire, d'un, au moins un, voire plusieurs partenaires adultes, qui sont en quelque sorte nécessaires pour la gestion de ces émotions, qui prêtent leurs moyens au bébé de gérer les émotions. Alors comment ça se passe? Ben, ça se passe que la maman qui entend son bébé pleurer, elle, puis quand ça commence à pleurer, un bébé, ça y va, hein, ça s'agite, ça se met dans tous les états, ça se désorganise complètement en quelques instants. La maman, elle perçoit ça. Il faut d'abord qu'elle le perçoive. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Je me rappelle une maman qui était très malade, psychiquement. Elle avait mis un babyphone, mais elle avait coupé le babyphone du côté du bébé. Donc, elle n'entendait rien, jamais. Il faut d'abord l'entendre. Il faut être capable de le supporter. C'est pas facile. Parfois, c'est insupportable. D'entendre un bébé pleurer et puis qu'on n'arrive pas, ou un enfant qui fait un caprice, ou qui meurt dans tous ses états, et qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et puis, il faut avoir aussi la capacité de trouver des réponses adéquates. Est-ce que le bébé a faim, qu'il faut lui donner une nouvelle tétée? Est-ce que le bébé a trop chaud et qu'il faut fermer le radiateur ou le découvrir? Est-ce que tout simplement il veut être pris dans les bras de maman et puis un peu câliné, avoir un contact? Ou est-ce qu'il commence une maladie? Est-ce qu'il a mal, etc. Tout ça, ça a été décrit sous le nom de rêverie maternelle. Pourquoi rêverie? Parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas une recette. Je trouve que c'est très très bien qu'il y ait des manuels de puériculture et que les parents aient des connaissances de puériculture pour faire les biberons, pour faire les chances, pour faire les calendriers de vaccination, pour tout ça. Mais là, il n'y a pas de recette. Je suis très irrité. L'été, souvent, on entend ça. Des billets à la radio de quelqu'un qui vous explique comment il faut faire quand votre enfant a ceci ou cela, et que ça a très bien marché quand elle l'a fait elle-même, etc. Bon, on peut raconter ce qu'on veut, mais les recettes claquées, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est l'intuition maternelle. C'est cette capacité de rêverie au sens... Alors, j'utilise un peu un anglicisme, parce que rêverie, en anglais, ça existe comme mot, emprunté au français, bien sûr, mais avec un sens un petit peu différent, c'est-à-dire de pensée intuitive. Je ne vais pas appliquer la recette que j'ai lue dans Laurence Pernault, mais je m'interroge, mais tiens, mais... Attends, je lui ai donné la tétée il n'y a pas longtemps. Comment ça se fait qu'il pleure comme ça? La mère qui délibère en entendant et en recevant le message de son bébé, jusqu'à ce que elle ait l'intuition que tout simplement je vais le prendre dans les bras puis on va voir, peut-être qu'il a trop chaud, ben, j'espère qu'il va pas encore me faire une otite, vous voyez, bon, qui délibère en elle-même. Peut-être elle demande à son conjoint aussi son avis, et le père peut délibérer lui aussi, pour trouver la réponse personnelle qu'elle a à apporter à la situation en question. Je mets toujours en garde, parce que je pratique une méthode d'observation qui est d'origine psychanalytique, contre trop d'avis, trop de conseils, trop de faites comme ci, faites comme ça. C'est plus aider les gens à oser s'interroger et puis à faire confiance à leur intuition qui me paraît aller dans la bonne direction. Alors, cette gestion des émotions, elle a une énorme importance parce que c'est ce qui nous permet, dans toute notre existence, de réagir de manière réfléchie, de savoir prendre le temps de comprendre les situations, de ne pas être dans des explosions de rage ou au contraire dans des effondrements dépressifs quand on n'y arrive pas ou quand l'autre ne nous comprend pas ou qu'on ne comprend pas l'autre, etc. Mais de mettre en route cette capacité de délibérer pour essayer de trouver des réponses satisfaisantes. Je n'ai pas besoin d'insister pour dire que c'est loin d'être évident, hein. On entend certains débats, on se dit, ben oui, l'être humain a bien du mal à s'écouter, à écouter l'autre, et à prendre en considération ce que l'autre a à transmettre comme message, et puis à en faire quelque chose de sensé. De sensé au sens, ça prend du sens. Et quand la mère peut, ou le père, ou un substitut, peut faire remplir cette fonction, ça prend du sens pour le bébé. C'est ça qui lui donne du sens. Comme si après coup, il pouvait se dire, bien sûr, il ne se dit pas ça comme ça, mais comme s'il pouvait se dire, ah ben c'est ça qu'il me fallait. J'avais besoin des bras de maman. Ou j'avais besoin de téter à nouveau. Ça donne forme à son vécu. Et ça lui permet d'intérioriser cette expérience d'une manière suffisamment apaisée et suffisamment durable. Alors, je conclue simplement pour dire que c'est assez remarquable que toutes les méthodes d'exploration du bébé et de son développement convergent dans ce domaine. Qu'il s'agisse de l'observation, qu'il s'agisse de la théorie de l'attachement, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais qui a là, dans ce domaine, tout à fait sa place, ou qu'il s'agisse de la psychanalyse, toutes ces méthodes convergent sur l'importance, la nécessité d'une relation, comme disait le psychanalyste Winnicott, pas parfaite, hein, suffisamment bonne. Good enough. Good enough en anglais, c'est pas un compliment, hein. C'est bon, ça va, ça peut aller.
Ça suffit.
C'est pas, c'est formidable, c'est excellent, c'est bien. Non, c'est correct. D'une relation donc good enough avec un partenaire adulte, puis ensuite plusieurs partenaires adultes, et puis ensuite des partenaires de la même génération, pour que la personnalité s'organise d'une manière suffisamment harmonieuse et que non seulement l'enfant, l'adolescent devienne intégré dans son groupe social, mais qu'il se sente aussi lui-même intérieurement tiré au mieux de sa forme. Vous savez que les adolescents, actuellement, il y en a énormément qui ne vont pas bien. Je m'arrête.
Merci.
Ils ne vont pas bien.
Alors moi, en fait, je voudrais réagir. Ce que vous avez dit, ça m'a rappelé, en fait, différents échanges que j'ai pu avoir avec des éducateurs qui étaient souvent en train de se poser la question entre... est-ce que les parents répondent suffisamment bien aux besoins de l'enfant ou pas, et de me ramener des choses qui, moi, me paraissaient pas tellement fondées. Alors, j'ai un exemple. En fait, c'était une éducatrice qui me disait... elle n'était pas éducatrice, elle était auxiliaire de puère. Et elle était très choquée parce qu'une maman ne mettait pas des chaussettes à son bébé. Il faisait froid, c'était l'hiver, elle ne lui mettait pas un petit bonnet sur la tête, et elle disait, cet enfant va avoir froid. Ben, je lui disais, mais demandez à la mère, en fait, comment elle perçoit s'il fait froid, s'il fait chaud, enfin voilà, est-ce qu'elle pense que son enfant pourrait avoir froid? Demandez-lui. Elle me dit, non, je ne peux pas. Il faut qu'on fasse un signalement. Donc moi, la mère, non, je vous passe tous les détails, hein, je suis en raccourci. Parce que là, on va vite. Et donc, en fait, elle n'y arrivait pas. Et donc, j'ai reçu cette maman, et moi, je lui ai demandé, voilà, comment elle faisait pour protéger du froid. Et en fait, elle expliquait qu'elle enroulait son enfant dans une couverture. Ouais. C'était sa façon de faire. Et voilà, en fait, c'était elle, ce qu'elle sentait, c'était, pour reprendre ce que vous dites, son intuition de mère, enfin voilà, et moi je trouvais que c'était vraiment approprié. Mais en fait, ça rejoint la technique, c'est-à-dire que la technique de cette auxiliaire, ce qu'elle avait appris, c'était hyper...
normatif.
Normatif, voyez, et qu'en fait, ça venait pas l'interroger dans le bon sens. Je vais vous donner un autre exemple, ça se passe dans un centre maternel, donc je suis appelée par une équipe de professionnels qui me dit « Madame Chemin, il faut venir, Madame Intel a lâché son enfant. » L'enfant n'avait que quelques mois, donc l'enfant part au SAMU, enfin voilà. Donc j'y vais, les éducateurs étaient très très choqués, bien sûr que le bébé puisse tomber, voilà. Et moi en fait, je n'ai pas de chance parce que j'ai un nez. J'ai un nez et j'arrive, je rencontre cette dame que je reçois, et en fait elle sentait l'alcool. Donc, tout ça, c'est hyper, hyper important, vous allez voir. Donc, je lui dis, écoutez, madame, je suis désolée. Elle me raconte tout un blabla. Je lui dis, je suis désolée, j'ai un nez et vous sentez l'alcool, permettez-moi de vous le dire. Donc, l'éducateur qui était là me dit, c'est extrêmement violent quand vous dites ça. Ben, je lui dis, non, c'est un fait. Et elle nie, elle dit, non, je n'ai pas bu. Je lui dis, écoutez, franchement, je me connais et j'ai... Ok, bon, on discute. Et elle me dit, oui, c'est vrai, j'ai bu un verre. Vous voyez, en fait, c'est important ce qui est en train de se passer. Parce que vous dites que vous avez bu un verre, mais moi, en fait, si, enfin, dans des échanges, hein, je lui dis, si effectivement vous avez besoin, en fait, de boire un verre, quand vous avez cet enfant, peut-être que ça veut dire quelque chose au niveau de l'angoisse, je ne sais pas, peut-être que ça veut dire quelque chose. Elle me dit, oui, je n'ai bu qu'un verre. Je lui dis, écoutez, j'en doute, mais puisqu'on est dans une relation de confiance, si vous me permettez, pouvez-vous montrer la bouteille et qu'on aille dans votre studio? Bien sûr, les éducateurs étaient estomaqués, ils ne comprenaient pas. En fait, elle n'avait pas bu un verre. Elle a vu la bouteille. Mais en fait, et c'est toujours le paradoxe dans un centre maternel, c'est de dire jusqu'où on va, en fait. Jusqu'où on va? D'abord, est-ce qu'on a le droit de dire aux gens qui sentent? Est-ce qu'on a le droit d'aller regarder dans les appartements qu'ils payent, qui sont... Ouais, moi, pour moi... Ah, vous voyez, mais je balance le truc pour... Voilà.
Alors, vous faites penser à une chose qui m'avait beaucoup plu dans l'idée même des centres parentaux. C'est la possibilité de faire des observations dans la durée de familles dysfonctionnelles pour évaluer de manière satisfaisante les risques encourue par l'enfant. Parce que quand on est dans une situation où c'est juste une visite, ou quelques visites espacées, il y a énormément de risques, soit de passer à côté d'une réelle maltraitance, parce qu'on établit une relation avec les parents, et puis, bon, on les trouve touchants, sympathiques, enfin bon, on a une empathie vis-à-vis d'eux, et on ne voit pas qu'à côté de ça, ils peuvent être tout à fait sympathiques, et à côté de ça, être tout à fait inadéquats dans leur parentalité, dans l'exercice de leur parentalité. Et puis qu'on a aussi beaucoup de... j'allais dire, de mécanismes de défense. Pardonnez-moi d'utiliser un vocabulaire psychanalytique, mais c'est difficile de reconnaître qu'on a affaire à des gens qui sont toxiques, dangereux pour leur enfant. On a tendance à dénier ça, sauf si on en est le témoin direct, bien sûr. On a tendance à dénier des choses qui, et dans les faits divers, on a presque toujours, quand il y a un drame, un enfant qui ne survit pas, on a presque toujours l'information, c'était une famille connue des services sociaux, etc., ou de la justice. Bon. Pourquoi est-ce qu'on a laissé les situations évoluer? Je crois parce que les moyens d'évaluation ne sont pas suffisants. Donc je plaide pour qu'on ait des possibilités de proposer aux familles en question, quand il y a soupçon de maltraitance physique ou sexuelle, des séjours suffisamment longs pour évaluer les choses. Parce que c'est vrai que c'est une limite. Il ne s'agit pas d'être dans le déni, encore une fois, et de passer à côté de situations. Il y a des risques. J'ai insisté sur les difficultés que les parents peuvent éprouver. Les enfants, ils peuvent aussi être soumis à des risques, à des dangers au sein de leur milieu familial que nous avons le devoir de prévenir. Vaste problème qui fait que oui, il y a des limites à la possibilité d'accompagner les parents dans leur parentalité. Encore que je crois que même quand il y a maltraitance, il faut le faire dans un esprit qui n'est pas un esprit de jugement et de condamnation. C'est pas notre rôle. Il y a une justice pour ça. Mais autant il faut signaler les situations à risque, autant c'est pas pour autant qu'on peut pas tenter un accompagnement, comme par exemple pour cette maman alcoolique. Bon, il est évident qu'on pouvait pas lui laisser son enfant sans surveillance, et peut-être qu'il fallait placer l'enfant d'ailleurs, séparer l'enfant, mais pour autant on peut peut-être aménager des rencontres, proposer à la mère un suivi et voir, comme vous avez proposé de le faire, qu'est-ce qui la menait à cette addiction à l'alcool qui était complètement en contradiction avec sa fonction maternelle. C'est un problème très très difficile. Je pense que l'évaluation des limites est toujours très, très délicate. Et on ne peut pas le faire tout seul. Personne ne peut décider tout seul si la limite est franchie. Il faut vraiment pouvoir échanger, évaluer sous différents angles. Et c'est un petit peu pour ça qu'on avait proposé ces différentes composantes, pour évaluer sous différents angles les situations familiales et à essayer d'arriver à une évaluation suffisamment complète et objective, entre guillemets. Cet enfant-là est vraiment en danger. Bon, ben, il n'y a pas photo, comme on dit, on ne peut pas laisser de conduire, poursuivre ce risque.
Moi, j'ai l'impression, pour aller un tout petit peu plus loin, c'est que l'accompagnement à la parentalité peut aussi s'exercer s'il y a séparation. Quand il y a malheureusement la séparation entre la mère et la mère.
Peut s'exercer, oui.
Oui, et qu'on peut continuer.
Tout à fait.
Enfin,
tout à fait.
La mère n'arrête pas, le père n'arrête pas d'être parent pour autant.
Oui.
Enfin, le placement n'arrête pas le lien, le soutien à la parentalité. C'est difficile, mais ça ne s'arrête pas là. Quoi. On ne peut pas dire je fais du soutien à la parentalité
tout à fait.
Que s'ils vivent ensemble.
Oui.
C'est plus facile s'ils vivent ensemble. Mais, un parent n'arrête pas d'être parent pour autant.
Tout à fait, oui. Et il faut respecter. D'abord, bon, très souvent, les parents dont les enfants ont été placés gardent l'autorité parentale. La déchéance de l'autorité parentale est rare, très rare.
Qui est un crime, en fait.
Donc, on doit respecter leur autorité parentale, ne serait-ce que ça. Mais les deux exemples que vous donnez, je trouve très intéressants parce que, dans leur contraste, est-ce qu'on peut dire que l'aide péricultrice là, qui voulait absolument mettre des chaussons et un bonnet au bébé, et qui était un petit peu prisonnière de son
référentiel,
ce qu'elle avait appris, ça empêchait peut-être chez elle un peu cette capacité de rêverie que j'évoquais tout à l'heure, cette intuition. Bon, à l'opposé, l'éducateur qui n'avait pas de nez et qui n'avait pas vu que la maman était alcoolisée, est-ce qu'il n'était pas un peu dans le déni?
Mais je pense que ça vient interroger sa propre... cet éducateur, je pense qu'il était touché, en fait. C'est ça, ça lui renvoyait peut-être une émotion. Moi, je ne juge pas l'éducateur. Peut-être que c'était trop fort pour lui.
Trop envahissant.
Oui. Voilà, et cette maman... Parce que la question de l'addiction, elle est aussi très complexe. Parce que, des éducateurs qui disent « Madame, il faut arrêter de boire si c'était si simple. » Et ça serait facile. Mais en fait c'est les parents... Moi, cette dame, je lui ai dit, il y a un échange après sur pourquoi elle a bu à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est lié à une angoisse, et que, effectivement, ce que je lui disais, mais d'abord, je comprends qu'elle puisse être angoissée. Donc on est là pour l'aider, mais c'est surtout que quand on a la responsabilité de son enfant, même si à un moment donné, on est addict, c'est comment on peut repousser. Vous voyez, cette envie de boire, parce que quand on a la responsabilité de son enfant, on ne peut pas être ivre, en fait. Vous voyez, on a le droit de boire. Elle a le droit de boire. Mais Mais tout ça, c'est de l'échange dans une équipe, et ça vient bousculer, ça vient vraiment bousculer. Bousculer les pratiques. Et il faut être à l'aise avec ses propres expériences, à l'aise avec soi-même.
Autant qu'on peut, oui.
Mais oui, et c'est comment on peut sécuriser une maman ou un papa ou un couple addict, est-ce que pour autant on doit leur enlever l'enfant? C'est comment on les accompagne, quelle prise de risque? Je sais pas, moi je parle, mais c'est sûrement ce que vous vivez, c'est à vous de parler. Hein. Moi j'essaye en fait d'amener des exemples pour que vous puissiez amener les vôtres.
Oui, alors pour revenir sur le truc de l'alcool, c'est vrai que pour le coup...
Dans le Nord.
Oui.
C'est la Bretagne qui parle.
C'est vrai qu'on va manger à l'école.
En Normandie, c'est pas mieux.
Dans le discours éducatif, on ne l'interdit pas formellement.
Ouais.
On leur dit il faut qu'il y en ait un ou deux qui reste en capacité de prendre en charge l'enfant. Qu'il y en ait un des deux qui s'alcoolise parce que ça fait partie aussi des expériences de l'adolescent, parfois, d'aller sur ces choses-là, sur ces termes-là, et je pense qu'il ne faut pas l'interdire formellement. Mais du coup, c'est que quand même quelqu'un soit capable de prendre en charge l'enfant. Et puis, on va travailler avec la réalité. Si on leur dit non, de but en blanc, ils vont y aller. La notion de l'interdit, surtout à ces âges-là, on a bien conscience qu'ils vont y aller, même tous les deux. Et du coup, le risque, c'est quand même qu'il y ait un danger pour l'enfant. Donc, je pense qu'il y a une tolérance quand même à avoir par rapport à ces choses-là. Maintenant, effectivement, c'est quand même plus problématique pour les... parce que je pense que là, c'était dans le cadre d'un centre maternel.
Oui.
Où là, pourquoi elle est seule à avoir la prise en charge de l'enfant. Et du coup, ça amène peut-être à penser comment est-ce qu'on peut leur permettre, si c'est un besoin parfois de sortir, parce qu'elles sont jeunes, comment est-ce qu'on leur offre cet espace en tant que centre matériel, parce que c'est quand même pas ça, en termes de prise en charge et compagnie. Comment est-ce qu'on peut penser justement ces moments-là, et puis pour éviter d'en arriver à ces situations-là, en fait.
C'est pour ça.
Oui, parce que l'accepter, de toute façon, il faut qu'on l'accepte, enfin, je pense.
C'est pour ça que dans mon expérience de chef de service dans un centre maternel, j'avais, avec une autre collègue d'une autre association, inventé le système de parrainage de bébés. Parce que les mères pétaient les plombs, elles étaient tout le temps collées à leur bébé et elles devenaient violentes. Ouais. Donc, il y a de quoi.
Oui.
Et donc, c'était leur offrir... en toute sécurité, parce que les parents de l'enfant étaient accompagnés, les parrains de l'enfant étaient accompagnés, pas laissés tout seuls à faire des bonnes choses et des bonnes intentions, étaient meilleurs, et les mamans pouvaient confier leur enfant en toute sécurité, et elles respiraient pendant cet espace-temps d'un week-end ou deux week-ends par mois.
C'est des proches.
Pardon ? Des parrains ? Oh, on avait mis en place tout un réseau. On avait fait appel à volontaires. Et on avait évalué les situations de la santé entre guillemets mentale des parrains. Est-ce qu'ils étaient là pour faire les meilleurs, pour se mettre en rivalité avec les parents, la mère notamment, ou est-ce qu'ils étaient là pour compenser ? Où ils étaient là, il y avait plein de motifs. Et donc, on a vu des très beaux cheminements avec des parrains et des parents. Ils sont presque, la maman est presque rentrée, elle aussi, dans une famille élargie, en fait. Et souvent, ces jeunes femmes qui sont issues d'immigration, parfois, ou isolées par la vie, ça leur recrée un espace... élargie, de confiance.
Là, c'est un peu ce qu'on essaie de travailler dans le Nord, je ne sais pas de Calais. C'est que France Parrainage parraine des enfants. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils puissent parrainer des adultes. Parce que ce n'est pas la même porte d'entrée et que l'adulte puisse se sentir à un moment donné aussi choisi pour pouvoir étayer aussi son bébé. Sauf que ce n'est pas les mêmes financements et donc on est en train de travailler là-dessus.
Nous, c'était que du bénévolat.
Alors oui, mais France Parrainage, pour que ça puisse, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de parents isolés aussi. Et quand vous parlez de la violence des mamans quand elles sont en centre maternel, elles peuvent être doublement violentes par le système. Parce qu'en fait, souvent, c'est soit l'enfant est placé, soit elles vont au centre maternel. En gros, elles n'ont pas un choix énorme. Et c'est là où on voit que le lien à l'enfant, il est déjà puissant et il est déjà là, parce que parfois elles préfèrent se séparer de leur conjoint pour que l'enfant ne soit pas placé, et je trouve que ça, c'est assez souvent valorisé.
C'est tout à fait juste.
Et la place des pères, alors on n'en parle beaucoup, mais ils sont quand même, quand ils sont présents dans le circuit, ils n'ont pas vraiment accès au centre maternel, ils peuvent venir à la journée, ils peuvent venir, mais... c'est pas assez ouvert, et quand le train sur les rails fait que le père il peut pas prendre sa place, alors déjà qu'il se sent un peu exclu pendant la grossesse, on renforce ce côté-là avec le centre maternel.
C'est ce qu'on disait à Didier, c'est que on plaque sur ces jeunes pères de la violence, mais c'est finalement en réponse à la violence que nous leur faisons subir. Donc, il faut valider par notre porte.
En fait, quand on a travaillé sur l'éthique, je ne sais pas qui était là, Virginie, en fait, c'était très impressionnant parce qu'on est parti de l'arbre éthique. Donc, l'arbre éthique, c'est à quel titre on accompagne. Voilà. Déjà, et ensuite, on a décliné. Et d'emblée, un accompagnement en centre parental. C'était un accompagnement en centre parental, finalement c'est devenu un accompagnement en centre maternel. C'est-à-dire que d'emblée, le père avait été évacué. D'emblée. Mais moi, par exemple, ce qui me questionne, et pour revenir sur l'expérience, parce que si vous dites, oui, à l'interne, voilà, créer du réseau à l'interne avec des institutions, moi, ce que je trouve intéressant dans l'expérience, et c'est pour ses parents, c'est qu'ils puissent, une fois qu'ils ne sont plus accompagnés, justement bénéficier, on va dire, du droit commun, enfin voilà, les babysitters, enfin, tout ce qui existe, justement, et qui doivent expérimenter aussi quand ils sont accompagnés. C'est-à-dire l'ouverture sur l'extérieur. Qu'est-ce qui est mis à disposition, voilà, au niveau des associations, au niveau aussi bah, des services à la personne, hein, ce que ça se paye aussi, une babysitter, un jeune étudiant. Et ça, c'est important, en fait, que les institutions soient vraiment ouvertes, parce que souvent, et encore aujourd'hui, je les trouve assez fermées, finalement.
Ouais. Pour rebondir sur ce que disait Brigitte, cette violence, elle est, moi, ce que j'entends aussi, la violence que ça fait aux mères privées de leurs compagnons juste avant la naissance, et ça se passe très fréquemment, et les effets sont quand même...
Alors, c'est comme ça que sans parentalité, hein. C'est l'idée, la remarque du maman. Mais dis-moi, je vais bien, mon bébé, ça va bien, mais ça fait péter mon couple. Et je me suis dit, nom de Dieu, on est dans la protection de l'enfance et on prive l'enfant de son père.
Ouais.
C'est 9 ans pour ouvrir un centre.
Ben nous, on est en 29.
Ben, je sais pas, ça durera moins longtemps.
Oui, mais il y avait des... Quand même, ça avait, en fait, ça a existé, puisque, comme je disais, il y a 35 ans, ça avait existé, ça a fermé, c'est un éternel recommencement. Hein.
Oui.
Un éternel recommencement.
Après, c'est comment susciter aussi cette capacité à rêver, ou maintenir cette capacité à rêver chez les professionnels. Mais peut-être c'est des fois éteint par les pros, parce que je trouve que les professionnels ont beaucoup de mal avec cette capacité à rêver.
Oui.
Comme si... pour être pro, il ne fallait pas rêver. Enfin, les pieds sur terre.
Tout à fait. Ouais. Non, allez-y.
Ça me fait penser à l'histoire des visites à domicile.
Oui.
On évoquait tout à l'heure.
Oui.
Quand on a élaboré ce projet avec mes deux collègues qui n'ont pas pu continuer ensuite, le projet du centre parental à Rosalie, j'avais beaucoup travaillé en AMO moi-même, en milieu ouvert. Hein. Et donc, il y avait le domaine privé et le domaine public. Et donc, le domaine privé, c'était la chambre de la maman, ou quand c'était dans un centre d'aide, ou l'appartement, etc. Et donc, il fallait trouver... moi, je disais, mais on n'est pas là pour faire de l'acquisition chez les gens. Comment, nous, de notre place professionnelle, nous allons faire en sorte d'être invités par les familles? Ça en dit long, hein, parce qu'il y en a derrière. Qu'est-ce qu'on a construit comme... accueil, comme écoute et comme confiance, comment on va faire pousser cette confiance réciproque pour pouvoir être invité. Et ça change tout. Et les parents, ils nous ouvraient leurs portes. Quelquefois, il a fallu la défoncer aussi, hein. Mais c'était très rare, quand même. Ailleurs de famille, c'est arrivé quelquefois, bien sûr.
Juste, c'est sur la question de l'observation. Je trouve que c'est une question vraiment très délicate, parce que moi je dis souvent, c'est souvent les bébés et les parents qui observent aussi les professionnels et qui se disent, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce que je peux, voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir, et ça demande du temps, créer un climat où les familles peuvent s'autoriser à montrer aussi ce qui ne va pas bien, parce qu'ils ont suffisamment de confiance vis-à-vis des professionnels. Mais c'est délicat, hein, effectivement, il n'y a jamais une... Parce qu'il faut pouvoir dire quand ça ne va pas, mais il y a un certain climat qui permet qu'on peut en faire quelque chose. Ou que ça va se traduire sur une forme de sanction, avec des conséquences parfois pires que ce qu'on a voulu prévenir.
Vous vouliez dire quelque chose. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez de la rêverie. On peut aussi appeler ça de l'intuition. Parce que le terme anglais, rêverie, il désigne la rêverie au sens français du terme, mais aussi cette pensée intuitive. Il y a quelque chose qui est compliqué, c'est qu'on nous apprend depuis l'école primaire, voire l'école maternelle, le contraire. On nous apprend à savoir des choses qui nous sont transmises, qu'on n'a pas inventées. Et puis, voilà que nous, on dit, mais non, dans ce domaine-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour tout ce qui est subjectif, intersubjectif, relationnel. Ce qui marche, c'est l'intuition. C'est la liberté qu'on a, la possibilité qu'on a de, comme on dit, de se faire une idée, hein, de la situation, de la personne avec qui on échange, de la situation de l'enfant. La dame qui voulait mettre des chaussons au bébé, elle ne parle pas du bébé, en tant que est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il communique. Non, elle parle de quelque chose d'appris et d'objectif, bon, la température. Bon, on rame à contre-courant. Et bon, il faut être prudent aussi pour pas aller trop loin dans cette direction, parce qu'il y a des choses, encore une fois, des limites qui exigent que non, on applique qu'on doit appliquer. C'est le rôle de la loi, par exemple. Mais à l'intérieur, et c'est pour ça qu'il faut qu'on crée des situations bien définies, bien claires, pour qu'à l'intérieur de ces situations-là, on se sente la possibilité de développer notre intuition. Parce que ça se développe. Le nez, je crois, aussi. Hein. L'intuition, ça se développe. C'est pas donné à tout le monde de la même façon. Il faut s'entraîner, en quelque sorte. Hein. Et alors, il y a tout un tas de possibilités pour le faire, ce développement. Mais c'est très important d'arriver à développer le plus possible cette capacité qui est naturelle, hein, mais qu'on n'utilise pas beaucoup professionnellement, parce que, encore une fois, on est formé à refouler cet aspect de nous-mêmes, qu'on va utiliser dans la vie familiale, amicale ou autre, mais politique peut-être, et pas professionnelle. Mais si, on est vraiment dans des professions où la capacité d'intuition joue un rôle absolument essentiel.
Ça me fait penser à ce que disait Brigitte à propos d'être invitée des familles, à mon petit témoignage. J'ai fait de l'AMO aussi très longtemps, et on avait des entretiens parfois effrayants, tout seul. Et à partir de cette sensation qu'il y avait dans l'équipe, qui nous mettait en risque, quoi, j'avais imaginé, mais on m'a bien aidé, de se raconter en réunion dans quelle situation on nous avait mis. Alors ça rapporte à assister, mais aussi, enfin peu importe. Plutôt que d'aller voir et tout être capable de tout comprendre et de tout voir, se mettre là où on nous dit de se mettre, finalement, et de la place où on nous a mis, être l'observateur, mais le receveur, sans projeter des visions. Et là, ça forgeait, et ça a eu des résultats insoupçonnables. Une réussite totale, et du coup, les premiers entretiens qui étaient si chargés d'émotions, de craintes, devenaient un exercice un peu théâtral, un peu à la manière des peintres qui font une vision synthétique de la chose, et on essayait d'être l'éponge qui reçoit la place qu'on nous avait donnée, et non pas ce qu'on allait voir et chercher, parce que c'était quand même des premières visites sur le mot judiciaire, enfin, on avait une ordonnance, etc.
Ouais.
Donc se mettre dans la position de recevoir, mais ça avait eu un effet terrible. Autour de l'intuition, génial. Ah oui. Il ne s'agissait pas d'aller voir le frigo et je ne sais pas quoi. Hein. C'était simplement au début, quoi. Ah. Et avant ou après le dossier du juge, mais se mettre dans la position de recevoir.
Oui.
Ça a tout changé.
Ouais. Ah ouais.
Et franchement, les plus craintifs d'entre nous, ils ne sont pas les bons cœurs, ont été moins, d'abord dans la crainte, plutôt dans la curiosité. Et ça change tout. Ouais. Merci.
Très bien, merci.
Moi, dans le sens de la rêverie, il y a toujours quelque chose qui m'a interloquée dans les rapports. La mère doit se détacher de l'enfant.
Comment ?
Franchement, c'est régulier, parce que personne, dans ce que j'ai lu, je ne dis pas que c'est partout, dans ce que j'ai lu, personne ne parle d'attachement, mais tout le temps de détachement. Mais comment on peut parler de détachement s'il n'y a pas d'attachement? Et ça m'a toujours questionnée, ça, je me suis dit, mais est-ce que justement une mère doit apprendre à se détacher de son bébé quand le bébé il a 2 mois, 3 mois? Est-ce que d'abord la première chose c'est pas justement l'attachement? Vous voyez, je sais pas, peut-être que ça se vit plus du tout maintenant.
J'ai envie de dire que c'est pas à la mère de se détacher. La mère, il faut qu'elle s'attache et c'est le bébé qui se détache.
En fait, c'est juste pour dire que c'est une question qui est amenée et écrite et envoyée au magistrat. C'est ça, en fait, ce que je veux dire. C'est ça, c'est...
Mais après, on a du mal avec les aspects quand on, des fois, on a l'impression que si elle le prend dès qu'il pleut, elle le prend trop.
Exactement.
On va être, pour le coup, dans le jugement, sauf que s'il pleure et qu'elle le prend, moi, je trouve ça plutôt positif. Oui.
Et avec ce que nous dit Didier, Monsieur Houzel, on comprend mieux que, voilà, que c'est intuitif, que, voilà, veut répondre à un besoin, qu'elle entend. Et en fait, c'est souvent...
Mais je pense que si on est bien attaché et si on regarde plutôt l'attachement et qu'on aide une maman à s'attacher, le bébé va pouvoir se détacher.
Mais bien sûr.
Oui. Sauf qu'en fait, comme on se focalise sur le détachement avant qu'il soit attaché, le bébé il est donc tout de pas sécure et il a beaucoup de mal.
Voilà. Ça vous fait réagir, hein?
Oui, parce qu'en fait, on a une collègue qui nous avait alerté un petit peu sur ce côté-là, en disant qu'en fait, d'accompagner l'enfant vers une halte garderie, c'était plutôt amener en fait un éveil pour l'enfant, mais pas spécialement un détachement de la mère. Donc la mère, il fallait qu'elle puisse aussi accompagner tous les temps d'adaptation, et que si elle n'était pas prête, autant la mère que l'enfant, parce que l'adaptation, c'est pas que l'adaptation de l'enfant, et bien il fallait qu'on prenne le temps nécessaire. Et nous, c'est vrai qu'on s'attache dans notre structure, en fait, une maman qui ressent le besoin d'avoir des temps sans son enfant, mais qui ne se sent pas prêt, et bien nous, on va être beaucoup présents au début, où elle va nous les confier une demi-heure, un quart d'heure. Je veux prendre ma douche, je ne sais pas comment m'en détacher, il est en train de pleurer. Ben nous, on va prendre le relais sur des tout petits moments pour aider cette maman, en fait, à travailler ce point.
C'est aussi là qu'on voit si la relation de confiance avec les parents s'est instaurée.
Ouais. Ouais.
Et puis rassurer la maman sur l'enfant peut aussi se sentir bien avec un autre adulte. Il y a des petites choses en fait à mettre en place, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup moins maintenant. Au début, quand on, c'est vrai que c'était mis en avant l'histoire de, il ne faut pas spécialement être que trop fusionnel. Il vaut mieux créer la séparation à certains moments pour avoir des moments plus porteurs quand vous vous retrouvez et tout ça. Et ben, on n'en parle plus du tout. On a vraiment changé sur ce point de vue-là parce qu'on s'est rendu compte qu'en effet,
dans cet accompagnement, en
fait. La mère a besoin de faire l'expérience de ce que vous, la structure. Est un tiers fiable.
Voilà.
C'est ça. Voilà.
Et puis qu'elle soit prête aussi. Dans l'adaptation, il y a vraiment l'adaptation de la maman autant que celle de l'enfant, en fait.
Ouais.
Parce que si la maman, elle est prête, eh ben, l'enfant, il le sera beaucoup plus.
Mais le père peut peut-être aider aussi.
Ben oui, c'est ça.
Le tiers. Alors, les pères, les invitent aussi quand il y a des modes de garde mis en place. Les pères qui sont présents, ils participent, étant en rencontre de la nounou, et on les invite systématiquement, les rendez-vous PMI,
c'est
et tout ça.
C'est vous les invitez.
Alors non, on invite la mère à en parler au père,
d'accord.
Parce que ça vient par elle, d'accord. En général, mais on lui dit qu'il faut qu'elle s'autorise, c'est pas parce que nous, on n'est pas placé au centre parental, on est centre maternel, et en fait, pour inclure ses papas, on en dit avec les mères directement, que tous ces temps formels, il n'y a aucun souci, au contraire, ils peuvent passer.
Ils ont l'autorité parentale, les pères, ou en général?
Alors, c'est au cas par cas.
Ouais, ils n'ont pas toujours reconnu, mais même quand ce n'est pas reconnu, si la maman met de l'intérêt à cette présence, elle est assurée.
En même temps, on dépense beaucoup d'énergie pour parler des pères, de la place des pères, etc. Et le système est très exclusif. De toute façon, puisque par exemple, nous au centre maternel, les papas sont présents, ont envie d'être là pour l'accouchement, sauf qu'en fait, une fois qu'elles sont au centre maternel, on ne peut pas leur mettre un lit de camp parce que, mon Dieu, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Et du coup, le train sur les rails qui se met en place parce que la maman et son bébé, d'emblée, le système les exclut là où ils ont envie d'être là. Et pour eux, c'est une souffrance de repartir le soir chez eux. Des fois, quand on va venir voir leur bébé et leur compagne, ils font des kilomètres, ça leur coûte cher aussi. Et ça, c'est pas assez. Cette souffrance-là n'est pas assez entendue.
Souvent, les centres maternels sont des fabricants de foyers monoparentaux.
Mmh.
Ouais.
Mmh.
C'est pour ça qu'on vient. Donc, les temps changent.
c'est pour ça qu'on en parle.
Après, ça dépend, parce que moi, j'en ai pas. Ça dépend. Moi, j'ai dirigé un centre maternel et les pères, ils dormaient, hein. Alors, soit tout le temps, ben, toujours, mais il y avait des moments clés où les papas pouvaient dormir.
Encore, c'est un homme qui.
Oui. Mais en fait, si on revient à ce qu'on s'était dit il y a 3 mois, quand on s'est vu la dernière fois, où on a parlé donc de Monsieur Houzel et voilà des enjeux de la parentalité, des différents axes sur l'expérience, enfin, tout ce qu'il vient de redire. Est-ce que vous repartez, parce que c'est ça qui est important en fait. Est-ce que vous repartez, voilà, en comment?
Plus éclairé.
Ouais, éclairé, ou est-ce que ça vous a apporté un petit peu des clés?
La piste de l'intuition, je pense qu'on le sait, mais c'est bien de le redire pour qu'on le remette en avant dans nos pratiques, parce qu'on le fait des fois inconsciemment, mais des fois on peut avoir aussi quand même tendance à dire bah, faut que tu fasses ça. Et c'est bien voilà, de remettre aussi ça au centre de notre accompagnement, ouais, aussi avec les familles.
Et je crois que c'est important de se souvenir à chaque instant de la pratique de notre vie, que nous sommes l'instrument,
oui,
de l'accompagnement. Nous sommes un instrument dans l'accompagnement. Et que cet instrument doit être bien entretenu, affûté, bien graissé.
Voilà. Ouais. C'est vraiment riche de découvrir avec d'autres expériences, de pouvoir échanger. Oui.
C'est sûr que c'est rassurant d'avoir des techniques toutes faites, oui, et auxquelles on s'accroche.
Oui.
Alors, moi, j'ai tendance à penser que si on peut lâcher suffisamment ces points d'appui techniques, disons, c'est dans la mesure où on a un cadre bien défini, bien construit, suffisamment stable, à l'intérieur duquel on sent qu'on peut faire le saut à l'élastique. Parce que c'est un saut à l'élastique. Hein. On est emporté dans un truc, on ne sait pas du tout ce qui va s'y passer, qu'est-ce qu'on va vivre, comment on va comprendre, ou rien comprendre. Ou... Bon. Il faut qu'il y ait un cadre dans lequel, auquel on puisse se référer, d'abord pour que ce soit supportable, et puis ensuite pour qu'on ait des référents avec qui on peut en discuter, avec qui on peut faire un travail de réflexion, d'élaboration, et améliorer notre capacité de rêverie. Parce que sans cadre, c'est pas possible. On tient pas, c'est pas possible.
Je crois que c'est... Je crois que c'est AR de famille, quand on a démarré, pendant 7 années à peu près, il y a eu une période bénie, où il y avait un climat extrêmement bienveillant,
bien traitant,
sans jugement, avec, où on osait se montrer, on osait dire qu'on s'est trompé, et on se nourrissait les uns des autres. Et je crois que finalement, c'est un incontournable dans nos métiers. Et si on n'a pas ça, on est foutu. Je veux dire, on est tout seul, on est perdu. Quoi. On a beau avoir l'année, on est quand même bien seul.
Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que qu'est-ce qui va nourrir notre intuition? Est-ce qu'en effet, ce qui va nourrir notre intuition, c'est une pensée qui fait des références, etc.? Ou est-ce que c'est une perception, je pratique l'autonomie, donc le tact, ce qu'on appelle le tact social, mais qui, entre une mère et un enfant, est le contact qu'elle a avec son enfant. Et donc, plus on peut l'aider à être en contact avec son enfant, plus peut-être ce tact-là va être nourri et donc apporter quelque chose qui n'est pas tant de l'intuition qu'une inspiration. Et pour nous, les accompagnants, c'est aussi très précieux d'être bien inspiré, comme on dit. Hein. Quel manque de tact, ou au contraire, quel tact on peut voir dans la parole qui est dite et bien ajustée à la situation. Et ça, c'est vraiment une question donnée, comme tu disais tout à l'heure, Sylvie, mais de toute notre sensualité naturelle, tout ce qu'on peut percevoir de façon marginale. Et c'est effectivement dans un cadre sécur qu'on peut oser ça.
Ouais.
Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on a besoin des deux? C'est-à-dire qu'on a besoin de cette expérience immédiate, ce tact, cette relation de proximité.
C'est les deux.
Et puis on a besoin de prendre du recul, du champ, et d'avoir des interlocuteurs qui nous aident à réfléchir à distance. Quoi. Je crois qu'on a besoin des deux,
deux
pour développer cette intuition et cette capacité.
Les deux vont ensemble, justement. C'est ça qui permet.
On a besoin de la pensée, mais qu'est-ce qui va la nourrir, cette pensée?
C'est ça, voilà.
Oui.
C'est ça.
D'accord. Ouais.
Oui, l'idée, c'est justement pas du tout d'opposer les deux, mais de dire que si on développe cette capacité à sentir, on va pouvoir penser. Je crois qu'on le fait tous l'expérience. Hein. Moi, si je suis trop stressé ou trop angoissé, j'arrive plus à penser non plus. Mais si j'arrive à sentir, à...
Bien sûr, ouais.
Et donc créer ce climat, et c'est là où je trouve que il y a un enjeu, créer ce climat. Oui.
Sentir sans théorie, la théorie elle est quand même importante, mais elle nous permet de faire des avis.
Bien sûr.
Il y a la théorie, on va dans
la théorie,
ça questionne, on va faire.
Des
allers-retours. Et peut-être que ce qu'on oublie des fois entre les deux, c'est quand même une histoire de rencontre et de chaleur.
Oui, c'est ça. Oui.
Oui, mais je crois que la théorie, on en a absolument besoin.
Oui, bien sûr.
Et pour créer, mettre en place les situations, ce que j'appelais le cadre tout à l'heure, dans laquelle on peut fonctionner. Il ne faut pas qu'elle soit un écran, si vous voulez. Il ne faut pas la mettre devant soi pour tout évaluer par rapport à... Il faut plutôt qu'elle soit en arrière-plan pour nous soutenir et nous donner un cadre de fonctionnement. Ce qui est un déplacement là particulier, hein, qu'on n'a pas dans toutes les disciplines. La théorie comme écran, ça inhibe plutôt.
Oui, ça empêche de l'élan.
Oui. Mais, alors que la théorie comme arrière-plan, ça nous permet de nous sentir suffisamment assurés et d'avancer.
J'aimerais recueillir votre avis sur un problème, sur un questionnement qui, je pense, à l'établissement, etc., et même la société française, c'est sur les violences conjugales et parentalité.
Les violences conjugales?
Ouais. Alors, oui, alors, on est un petit peu plus loin, il y a deux grands courants qui disent, à partir de, on va parler des hommes violents, désolé, je sais que les femmes le sont parfois, mais on va parler des hommes, à partir du moment où un homme est violent avec sa conjointe, on ne peut pas parler de bon père. Certains disent ça, d'autres disent il peut être un conjoint violent, je caricature un peu, hein. mais par ailleurs un bon père. Donc il y a même des. Ben, le juge violent, il veut qu'on enlève l'autorité parentale à un homme qui aurait été violent avec la mère de l'enfant. D'autres disent c'est pas lié, il n'y a pas de lien à faire. Donc comment on dit que j'imagine confrontément. Moi je dis confrontément dans mon travail. Et j'ai un avis personnel, mais je ne voudrais pas spécialement le
C'est compliqué.
Si je peux me permettre, c'est pas qu'une caricature, c'est des choses que j'ai déjà entendues, moi.
Bah oui.
Bah oui, mais
c'est qu'il faut mener un bon père. Est-ce qu'on peut être un bon père et en ayant.
C'est une vraie question, c'est pas une vraie question.
Déjà, c'est les notions de bonheur, bonheur.
Ouais, c'est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Est-ce qu'on remet en cause la parentalité du monsieur à partir du moment où il a été violent avec la mère de l'enfant?
C'est sûr que c'est mauvais pour l'enfant.
Alors, est-ce qu'on peut. Monsieur Zelva.
Il n'y aura pas de blanc, je sais bien que ce n'est pas normal. Enfin, il y a des.
J'ai pas d'avis. Je me demande si on peut faire des généralités.
Non, évidemment, mais.
Ben oui, mais c'est toute la question.
C'est
toute la question de savoir comment est-ce qu'on comprend telle situation où il y a eu des violences conjugales. Et où le père est l'auteur de ces violences. J'ai été frappé, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure là-bas, au déjeuner. Il y a eu un papier tout récent dans Le Monde sur les mères infanticides. Et c'était sous-titré Une mère tue son enfant tous les 10 jours. C'est-à-dire qu'il y a un infanticide tous les 10 jours en France. Et c'est le même genre de sous-titre qu'on met pour les violences conjugales, mais à propos des pères. Un homme tue sa compagne tous les 3 ou 4 jours. 4 jours. Mais alors le contenu était complètement différent. Parce que dans un contenu où c'était violence conjugale avec le père comme auteur, c'est un criminel, il faut absolument le juger, le condamner, le mettre un terme à ces violences. Bien sûr qu'il faut. Mais en général, il n'y a pas d'interrogation sur qu'est-ce qui se passe, quel sens ça prend, enfin, d'où ça vient. Alors que là, c'était une thématique tout, dans le genre, c'est des mères surchargées, qui ont une charge mentale insupportable, qui n'en peuvent plus, qui... bon, il n'y avait pas une once de condamnation, si vous voulez. C'était tout dans la compassion. Pourquoi ? Pourquoi que les mères infanticides suscitent la compassion ? Et les pères féminicides ne suscitent que la condamnation. Est-ce que dans les deux cas, il ne faut pas et sanction parce que notre société n'admet pas, c'est pas vrai dans toutes les sociétés, hein. Les meurtres d'honneur dans certaines sociétés, si vous allez en Afghanistan, dans certains pays comme ça, c'est plutôt valorisé. C'est pas dans notre société. De même qu'on ne tue pas son enfant. Les Romains connaissaient l'histoire, c'est le père qui soulevait le bébé pour le reconnaître. S'il ne le prenait pas, le bébé mourrait. On le laissait mourir. Est-ce que dans les deux situations, il ne faut pas, alors je reviens à nos catégories, et une loi interdictrice et sanctionnante d'actes qui sont inadmissibles aux yeux de la société française, le meurtre d'une femme, d'un bébé, et, alors je crois que c'est notre terrain, une interrogation, une réflexion, un questionnement sur qu'est-ce qui amène des gens à ces situations aussi dramatiques et aussi violentes. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas d'avis sur la question que vous posez.
J'ai entendu que je n'ai pas d'avis.
Mais je pense qu'il faut s'interroger au cas par cas sur pourquoi on est arrivé à telle extrémité, quel sens ça peut avoir. Et est-ce qu'on peut y remédier ?
Alors, oui. C'est-à-dire oui, qu'en fait, pour avoir été avec des enfants qui ont eu leur père qui a été condamné pour avoir failli tuer leur mère, en fait, parfois, on fait une abstraction totale de ce que l'enfant a pu vivre. C'est-à-dire quand il est caché sous la table et qu'il voit le papa qui a failli tuer sa maman, on va distinguer l'agression faite à la mère, donc par exemple il n'a plus le droit d'approcher la mère, mais il y a des droits qui se mettent avec l'enfant. Et du coup, à ce moment-là, c'est aussi destructeur pour l'enfant, parce qu'il met en place des systèmes de défense.
Je suis d'accord, oui.
Où il va éteindre sa peur, il met sa plaisir. Et c'est, moi, c'est ça qui va plus me poser problème. C'est pas tant le juger, c'est l'impact que ça a.
J'ai un souvenir clinique, hein, dans ma carrière, d'un enfant, le père, je sais plus s'il avait tué la mère ou s'il l'avait violenté, mais peut-être bien il l'avait tué. Je ne sais plus très bien. Il était en prison. Et régulièrement, on amenait l'enfant voir son père. Ça ne se passait pas bien. Et l'enfant, après, il était placé dans une famille d'accueil. Et l'enfant, après, avait des symptômes du genre encopressif, juste comme ça. On continuait. On continuait un peu dans l'idée, il faut que connaisse son père et que le père ait un lien avec lui. Je crois que j'avais donné quand même comme avis, mais écoutez, peut-être arrêter. Parce que manifestement, ça ne va pas, quoi. C'est traumatique pour l'enfant.
Bon. Mais aussi parce que quand l'enfant va en prison, il n'est plus à sa place d'enfant. Il va nourrir le père ou la mère. Il y a aussi une place qui est un peu différente.
Mais enfin, manifestement, le cadre n'était pas du tout adéquat pour qu'il y ait une réelle relation entre l'enfant et le père. Et c'était une source d'angoisse absolument ingérable pour cet enfant. Bon, moi, je ne crois pas que j'aurai une réponse systématique pour toutes ces situations dramatiques. Je crois qu'encore une fois, il faut d'abord se donner un cadre d'observation adéquat et ensuite observer et réfléchir situation par situation pour pouvoir apporter les réponses les plus favorables pour l'enfant. Pour l'enfant, quelquefois, on est surpris que oui, l'enfant, il a besoin de rencontrer un père violent. Puis d'autres fois, on va estimer qu'au contraire, il faut l'en protéger.
Alors, moi, j'ai un questionnement par rapport à ce temps d'observation, parce qu'en fait, je me dis, dans un centre parental, violence conjugale avec enfant, comment on fait vraiment? Parce que, est-ce qu'on doit retirer un des deux pour éviter la violence? Est-ce qu'on travaille cette violence, sachant qu'il y a un enfant qui est au milieu? On n'a pas de réponse parce que nous, on est encore centre maternel, mais c'est plein de questions qu'on se pose autour de...
Ça va aller, vous allez voir.
Non, on sait bien, mais on sait qu'on va s'y confronter à un moment donné.
De toute façon, en centre maternel, avant il était centre maternel, puis il est devenu centre maternel. Centre maternel, les violences conjugales existaient déjà, à part qu'il n'avait pas l'autorisation de venir, mais il venait quoi, c'est en appart. Ouais. Donc,
clairement, on l'a très peu.
Vous l'avez très peu.
On l'a très peu.
Ça se passe sur l'extérieur, de toute façon.
Oui. Oui, mais c'est plus simple parce qu'en fait, là, s'ils sont tous les deux dans l'appartement, ça veut dire qu'il y a quand même le relogement d'une personne si à un moment donné.
Oui, il y a le règlement, alors on est raide, hein, mais le règlement, il est clair, violence de l'un ou de l'autre, la personne violente est exclue du centre de l'établissement.
Sur un temps donné, le temps d'un travail,
Oui, s'il y a des violences à l'intérieur de l'établissement.
Oui, parce qu'il y a un enfant. C'est parce qu'il y a un enfant.
Oui, d'accord. Oui.
Ça peut être à l'extérieur, pas avec l'enfant.
Et donc, je vais plus loin. Vous signalez? Vous faites un signalement?
Mais non, mais c'était tout mon questionnement. C'est-à-dire que...
Question. Voilà.
Parce qu'il y a les conflits élevés qui sont autre chose.
De mesurer,
c'est... Avant de savoir qu'on est dans le cadre de violence conjugale, c'est long. Il y a du conflit très élevé, il y a de la dispute. En fait, est-ce qu'il y a emprise, pas emprise? Après, il faut des spécialistes presque.
Mais un enfant, même dans des disputes très élevées.
Je crois que toute crise dans un groupe est une opportunité de réflexion. Et il faut l'exprimer comme ça aux parents, je pense.
On peut s'engueuler.
On peut s'engueuler, mais on peut parler en même temps, réfléchir. C'est une opportunité en redéfinition. Alors, aussi.
Moi, je nuancerais. On peut s'engueuler. C'est comment on peut s'engueuler, où on peut s'engueuler, devant qui, et voilà. Parce que, voilà, il y a quand même tout ça.
Exactement.
Voilà.
Mais on peut très bien, effectivement, on peut très bien dire non, ça c'est pas possible.
Mais et au début,
c'est pas possible. Stop, on arrête. Parce que c'est pas un cadre acceptable et reconnu pour élever un enfant. Mais pour autant, ça n'empêche pas de réfléchir à la situation et d'essayer d'aider les parents en question à réfléchir à la situation et à cette évolution catastrophique de leur relation. S'il l'accepte, bien sûr.
et à prendre conscience, non, c'est le cas, justement, non, c'est le cas. Peut-être que notre rôle, c'est d'amener les parents à prendre conscience de l'impact que ça a sur leur enfant.
En fait. Ah ouais.
Parce qu'à ce moment-là, ils sont pris dans leurs propres problèmes, dans leurs propres préoccupations, et ils oublient en fait qu'il y a des enfants.
Comment on voit plus l'enfant. Qu'est-ce que faisait votre enfant pendant que ça a dégénéré là,
Il ne sait pas.
Il sera plus dans le verre.
Exactement. Et c'est ça, pour moi, le plus important, en fait.
C'est pour ça qu'à mon avis, au moment même de l'admission, dans le processus d'admission, le fait d'accueillir le couple et d'ouvrir un espace en disant vraiment aussi c'est en couple que vous êtes accueillis, la question de votre communication dans le couple, des risques de violence, que ça fait partie. Et c'est important d'en dialoguer ça avant avec les gens, il me semble que ça... Alors ça ne résout pas tout, ce n'est pas miraculeux, mais ça change quand même beaucoup de choses qu'accueillir des situations où parfois même c'est d'abord madame et puis on se rend compte qu'elle est en couple et puis on bricole, on fait ce qu'on peut. Mais quand on a posé un cadre, là je reviens sur la question du cadre, où la question... où c'est vraiment l'ensemble de la famille qui est accueillie et où c'est le couple dont on prend soin aussi parce que ça a un effet très important sur l'enfant, ça change tout. Enfin, ça change tout. Ça facilite en tout cas les choses. Ça l'explique. Évidemment, c'est pas magique. Hein, mais, et moi, ce que je m'aperçois aussi, c'est que quand même les collègues qui sont passés de centre maternel, je vois par exemple ceux de Saint-Brieuc, en fait... on a fait tout un travail de formation et tout ça. On est parti de l'expérience d'un couple et tout. Ça a pu même être un très, très jeune couple. Puis après, ils se sont mis à accompagner d'autres couples. Et en fait, les peurs qu'ils avaient par rapport à l'accompagnement des couples sont complètement tombées par l'expérience. Voilà, exactement. C'est ça. Et, il y a beaucoup de fantasmes.
On va être obligé de conclure. Parce que la dame qui est à l'accueil...
Oui, elle va partir.
On a un bureau à elle. Et on a un petit...